VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir à tous. Bagassi Kouroua, c'est micro pour ce bulletin d'information. Il est 14h ici à Washington, 19h en temps universel. On commence par du football et ses matchs de qualification de la CAN 2021. Plusieurs matchs donc ce dimanche. Le Sénégal qui bat l'Eswatini 4-1. Et le Burkina Faso qui a eu le dessus sur le Soudan du Sud 2-1. L'Afrique du Sud a, elle, battu l'autre Soudan. Le Soudan donc 1-0. Les Aigles du Mali ont eu raison du Tchad à N'Djamena 2-0. Défaite de la Sierra Leone face au Bénin 1-0. Le Congo a battu la Guinée-Bissau 3-0. Et 2-0 pour la Guinée face à la Namibie. 4-2 pour le Nigeria contre le Lesotho. Et le Rwanda n'a eu aucune chance contre le Cameroun. 1-0. Le Premier ministre français Édouard Philippe est à Dakar et il a symboliquement remis ce dimanche donc au président sénégalais Macky Sall un sabre matérialisant l'histoire entre leurs deux pays, mais aussi l'engagement du président Emmanuel Macron à commencer la restitution à l'Afrique de son patrimoine culturel. Le Premier ministre Philippe a remis donc à Macky Sall le sabre d'Omar Saïdou Tall, une très belle pièce de fer, de laiton, de cuivre, de cuir et de bois, avec son étui faisant partie des collections du musée de l'armée à Paris. S'il ne s'agit pas encore à proprement parler d'une restitution, ce geste en est la première étape, a dit le Premier ministre Philippe au cours d'une cérémonie à la présidence sénégalaise en présence des descendants de l'ancien propriétaire. L'armée burkinabé affirme avoir tué 32 terroristes au cours des 2 jours d'opération dans le nord du pays, gangréné par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Cette annonce survient une dizaine de jours après la spectaculaire attaque dans l'est d'un convoi de la société minière canadienne Semafo, attribuée à des djihadistes et qui a fait au moins 39 morts. L'ambassadeur du Nigeria à Cotonou a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères du Bénin à la suite d'attaques contre des commerçants béninois à la frontière entre les deux pays. C'est ce que rapporte l'agence France-Presse. Et ce vendredi, donc, des hommes en armes venus du Nigeria voisin ont fait irruption à la frontière entre les deux pays à la hauteur des localités d'Adjawere et Pobé pour vandaliser des magasins de commerçants béninois, selon des habitants. Le principal syndicat sud-africain, NUMSA, appelle à élargir une grève déclenchée par les employés de la compagnie aérienne South African Airways à l'ensemble du secteur aérien du pays. La grève à laquelle participent quelques 3 000 des 5 000 employés de South African a été déclenchée vendredi pour s'opposer à un plan de restructuration de la compagnie nationale en grave difficulté financière. La grève qui a déjà provoqué l'annulation de centaines de vols coûte environ 52 millions de rands, soit 3,5 millions de dollars par jour à la compagnie selon celle-ci. La campagne électorale pour la présidentielle en Algérie a débuté aujourd'hui dans la discrétion, 7 mois après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, alors que le déroulement et l'issue de ce scrutin sont incertains en raison de son rejet total par le mouvement de contestation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Des milliers de personnes manifestaient aujourd'hui en Géorgie à l'appel de l'opposition après le rejet par la majorité au pouvoir d'une réforme du système électoral promise pour mettre fin à une précédente vague de contestation. Un avion de la compagnie Air Namibia est entré en collision ce samedi avec un appareil de Korean Air après leur atterrissage sur l'aéroport de Francfort dans le centre de l'Allemagne. Mais l'incident n'a fait aucun blessé, ont indiqué dimanche les autorités. Et puis enfin, ici aux États-Unis, un conseiller de Donald Trump a recommandé de restreindre l'accès à la conversation avec le chef de l'État ukrainien qui a déclenché l'actuelle procédure de destitution du président américain selon son témoignage devant le Congrès rendu public ce samedi. C'est tout donc pour ce bulletin d'information. Le prochain bulletin, c'est dans un peu moins d'une heure. Merci de nous suivre et l'info est en continu sur voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous parlons des églises et des nouvelles technologies. Eric Mandirakiza avec vous. Les médias sociaux ont fait leur apparition dans la communication des confessions religieuses. Ils sont autant utilisés par les acteurs religieux au premier chef que par les fidèles et proposent aujourd'hui un service et une utilisation différente des médias dits traditionnels. On peut les consulter à tout moment. Et l'utilisation de ces médias sociaux a permis de briser la barrière sociale entre acteurs religieux au premier chef, comme je le disais, et les fidèles qui s'étaient formés ces dernières années. Et notre invité ce soir, c'est le docteur Nathalie Nyamoya. Elle est croyante et utilisatrice de certains médias sociaux. Docteur Nathalie, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Oui.
Je vous salue.
Bonsoir, Nathalie. Je signale que vous êtes au téléphone depuis Québec, au Canada. Oui. C'est ça.
Dans la ville de Montréal, effectivement.
Voilà. On parle de ces médias sociaux dans le monde des confessions religieuses, donc des médias qui sont devenus de nouveaux espaces pour l'évangélisation ou pour la prédication, si vous voulez. Peut-on les considérer comme les portes de vérité et de foi au-delà de la fréquentation physique dans les lieux de culte?
Ils ont certains avantages, mais il faut d'abord que la personne soit sérieuse, celle qui utilise les réseaux sociaux, parce que lorsqu'on utilise un réseau social, c'est pour toucher un plus grand nombre et non pas en être un gourou. Donc je pense que le plus important, c'est d'abord de vérifier si l'auteur ou la personne qui diffuse les messages sur les réseaux sociaux est fiable. S'il est fiable, il y a sans aucun doute certains avantages à utiliser les réseaux sociaux actuels.
Comment les fidèles ou d'autres personnes peuvent distinguer s'il s'agit réellement d'une identification officielle ou si ce n'est pas quelqu'un qui s'improvise dans cette forme de communication?
En général, il faut voir les fruits de la personne qui écrit. Si ces fruits touchent une personne, si ça si ça vous apporte un bienfait personnel, si vous pensez que vous évoluez, je pense que c'est quand même quelque chose à considérer. Tout ce qui est beau n'est pas forcément bon. Ça peut avoir une apparence belle, mais sans avoir réellement le contenu. Mais en général, lorsque le fond est bon, on ressent un bienfait. Et ce bienfait fait que les choses changent dans notre vie personnelle, parce que la vision d'une personne qui diffuse des messages au niveau des réseaux sociaux ou dans les églises ou dans n'importe quel cadre religieux, c'est de pouvoir participer à l'évolution sociale de la personne, des personnes qui l'écoutent. Donc ce qui est surtout important, c'est d'abord de vérifier, de sentir si cette personne dit des choses qui correspondent à vos croyances, et de le suivre petit à petit, parce qu'en général, lorsqu'on commence à diffuser, on n'a pas 10 000 personnes qui vont vous écouter le premier jour. Ça se fait de bouche à oreille. Et un étant touché va essayer de dire à l'autre, tiens, j'ai rencontré telle personne, j'ai senti ses enseignements me toucher, tel prédicateur a donné un enseignement tel dimanche, ça m'a beaucoup touché. Donc ça fait plus d'un effet de boule de neige. Mais en général, il faut d'abord écouter, sentir, est-ce que ça correspond à votre vision de la religion, etc.
Vous, individuellement, lorsque vous communiquez sur la toile, quel est le message que vous voulez, partager ou porter à votre audience?
Alors, personnellement, je suis chrétienne. Donc, quand je parle, j'utilise souvent les réseaux sociaux, surtout Facebook, pour donner certains posts personnels. Et je m'inspire de la vie courante. C'est très difficile de sauter dessus sur un sujet, de s'arrêter d'une façon très rhétorique et de vouloir donner des leçons de morale. Mais lorsqu'on prend les choses de la vie courante pour encourager les gens, pour dire à des mères, écoutez, si vos enfants ont mal réagi, c'est pas dramatique, on traverse tous la même situation. Il y a un verset biblique qui peut t'épauler. Tel jour où je me suis fâchée contre telle personne, mais voilà, ce que j'ai médité dans la parole, ça m'a béni. Et lorsque vous donnez en général vos faiblesses, les gens ne veulent pas écouter seulement vos forces, c'est surtout les faiblesses qui font que vous vous identifiez aux gens. Plus je parle de mes faiblesses, plus les gens se réfèrent à moi. Ils se disent, ah oui, quand même, il y a quelqu'un qui peut souffrir comme moi. Et quand je lis son message, je peux m'identifier et être restaurée, puisque à la fin, cette personne, elle a dit qu'elle était bien et que la parole de Dieu l'a édifiée. Donc en général, moi, mon message, c'est, même si ça va un petit peu mal, même s'il y a des challenges dans la vie, tu peux t'en sortir, et en utilisant mes propres faiblesses.
Gardez la ligne, docteur Nathalie. Nous avons un auditeur en ligne. C'est Hosanna qui est là. Bonsoir, Hosanna.
Bonsoir, Afrique, et bonsoir à tout le monde.
Je vous écoute, Hosanna.
Moi, je pense que les réseaux sociaux jouent un grand rôle aujourd'hui dans tous les domaines. Donc, les églises aussi, ou les hommes religieux peuvent utiliser ce outil pour propager la parole de Dieu. Parce que vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui utilisent l'Internet. Donc, on doit s'en servir de ça pour partager la parole de Dieu. Et je pense qu'avec ça, on peut atteindre aussi beaucoup de personnes. Donc, je ne vois pas d'inconvénient quand les religieux utilisent. Moi, je pense que c'est plus important et c'est vraiment indispensable. Parce que je pense que même c'est devenu même plus puissant que faire des évangélisations. Tout le monde, les jeunes, les vieux, les femmes, prennent tout leur temps maintenant dans les réseaux sociaux. Donc, quand on envoie une parole, on prêche la parole de Dieu, parce que cela peut permettre aux gens même d'augmenter ou d'agrandir leur foi et de changer aussi leur vie. Donc, je vois que c'est très important. Et surtout, il est maintenant de la responsabilité de ceux-là qui reçoivent ces messages ou des choses comme celui, surtout en ce qui concerne la parole de Dieu, de faire le discernement, l'idée de choisir ou de prier ce qui peut les avantager à accroître leur foi. Donc, je pense que je ne vois pas le mauvais côté on utilise ces moyens pour vraiment prêcher ou évangéliser les gens.
Hosanna?
Oui.
Est-ce que ce n'est pas pour, disons, compenser la fréquentation physique dans les lieux de culte? Cette fréquentation présente moins d'intérêt dans certaines régions.
Oui, c'est ce que je voulais dire, parce que beaucoup de gens n'ont pas même le temps d'aller à l'église, s'asseoir, prendre leur temps et écouter la parole de Dieu. Mais ils ont quand même le temps de visiter les réseaux sociaux. Facebook et autres. Donc, c'est une occasion maintenant pour les pasteurs ou les évangélistes de saisir cette opportunité et atteindre un bon nombre de gens. Donc, je vois que c'est un moyen plus efficace que les églises doivent aujourd'hui saisir. Par exemple, ici au Tchad, tout le temps, les jeunes sont là en train de connecter. Pourtant, le dimanche, au lieu d'aller à l'église, ils prennent leur temps, ils se reposent tranquillement et en train de visiter les réseaux sociaux. Et donc, si on essaie de balancer quelque chose là-bas, même s'ils ne parlent pas à l'église, même pas, il n'y a pas sa présence physique à l'église, quand même, il reçoit cette parole-là ici chez lui. Et je pense que ça va avoir certainement d'impact sur sa vie, sur sa foi. Donc, je pense que cela est très important et c'est vraiment valable. Quoi.
Merci, Hosanna, pour votre contribution. Nous avons Kevin en ligne. Kevin, vous nous entendez? Bonsoir.
Bonjour, je vous entends plus. Hein.
Voilà. Vous dites que ces médias sociaux vous permettent de faciliter la communication entre l'Église et les fidèles. Un exemple concret.
Concernant l'exemple, je prends par exemple, je suis souvent une pasteur américaine, Josh Meyer, et on a la possibilité de le rencontrer partout sur Instagram, par exemple. Donc, on entre en contact direct avec le. Moi, je pense qu'elle entre en contact direct avec le. Avec les fidèles dans le monde entier. Donc, elle a la possibilité, les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de chrétiens. Moi, je suis chrétien, par exemple. Ça donne la possibilité pour l'église d'être en communication directe avec les fidèles et aussi avec les non-croyants. Comme exemple, je pense que je pourrais donner l'exemple de pasteur Josh Meyer. Moi, je suis congolais, mais j'ai la possibilité de suivre ses prédications via Internet. Et tout ce qu'elle donne comme prédication, je le suis facilement grâce à ces réseaux sociaux. Donc moi, je pense que les réseaux sociaux sont un bon moyen qui permet à l'Église, parce que je suis chrétien, donc qui permet à l'Église d'être en communication directe avec les idées et aussi de propager la parole de Dieu envers les non-croyants ou encore envers ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Donc je suis pour à ce que les réseaux sociaux soient utilisés dans les églises afin de propager la parole de Dieu.
Merci Kevin. Raymond Lushima, bonsoir.
Bonsoir.
Raymond, je vous écoute. Vous dites que l'utilisation de ces médias sociaux doit être limitée. Et vous précisez pendant le culte.
Et puis, il y a une méthode d'habitude qui se caractérise la culture jeune. Parfois, pendant le sermon, il y en a qui sont en train de se passer, en train de communiquer avec leur langue. Et puis, tous les sujets hors religieux. Moi, je pense que quand ça se concerne la religion, c'est-à-dire les réseaux sociaux permettent aux chrétiens de pouvoir partager la parole avec les services de Dieu, la capacité de créer des messages. Ils peuvent discuter sur certains sujets relatifs à la parole. Et puis, ils peuvent même profiter avec le système de vidéoconférence ou les vidéos en direct pour que même suivre la prédication en faisant même prédicateur en distance. Mais, quand on est croyant, parfois on est en train de prêcher, il y a des croyants qui prêchent des sujets, qui discutent avec les amis et qui discutent à la maison. Donc, ça doit être limité chez les croyants. Mais chez les pasteurs, il y a des églises, on a peut-être fait qu'il y a différentes en lui, soit à connecter les églises avec d'autres, soit à discuter de certains sujets et partager la parole de Dieu. Donc, c'est ce que je pense par rapport à mon avis.
Merci Raymond pour votre contribution. Il y a aussi Junior qui est en ligne. Junior, bonsoir.
Et bonsoir, monsieur.
Je vous écoute.
Je suis d'accord avec ce que vous avez dit actuellement, je suis d'accord avec ça. L'un des mal aussi de réaliser la bonne nouvelle. Et on peut utiliser les réseaux sociaux pour prêcher la parole parce que l'évangile est gratuit, l'évangélisation c'est payant. Donc vous devez avoir de l'argent pour le faire. Je pense que c'est le moyen aussi le mieux coûté pour évangéliser la bonne nouvelle.
Junior,
oui.
Est-ce que vous, individuellement, est-ce que ça vous permet de grandir dans votre foi?
Bien sûr. Il y a certains articles qui me permettent vraiment de grandir dans ma foi parce que il y a des prédications qui m'avaient vraiment touché. Par exemple, les autres, tout ça, ça m'avait touché. Ça m'avait permis à ce que changer dans certaines attitudes. Alors, j'encourage ça parce que ça permet à ceux qui n'ont pas vraiment le temps d'aller à l'église et qui utilisent les réseaux sociaux de se retrouver un peu et de lire aussi la parole de Dieu. Parce qu'il y en a déjà là qui n'ont pas le temps d'aller à l'église et qui n'ont pas aussi le temps de lire la Bible. Et avec des publications sur les réseaux sociaux, ils ont le temps de lire cela et ils ont le temps aussi de s'approcher à l'heure éternelle. Et par là, ils peuvent aussi changer leur façon de vivre, changer leur comportement et grandir aussi leur foi. Et j'espère que c'est une bonne chose.
Merci, Junior Kinumbé. Nous revenons vers notre invité, docteur Nathalie Nyamoya. Vous avez suivi ces quatre auditeurs. Mm-hmm. Vous partagez leur point de vue, une nuance peut-être?
Oui, oui. En fait, il y a certaines nuances à relever parce que bien que les réseaux sociaux, ça, on les appelle des réseaux sociaux, mais on a, la tendance actuelle, c'est que plus les gens utilisent les réseaux sociaux, moins ils sont en contact avec les gens. C'est vrai qu'il y a des avantages à utiliser les réseaux sociaux lorsque vous êtes en train de propager une idée, comme par exemple dans le christianisme, donner la bonne nouvelle. Pour les prédicateurs, il y a un avantage certain, c'est qu'on enseigne sans dépendre émotionnellement de l'auditoire. Donc on donne des vérités sans compromis. C'est quelque chose de très bon. Ça permet aux prédicateurs de ne pas avoir un ego surdimensionné, parce que tant qu'on ne te voit pas, forcément, tu n'as pas trop la grosse tête et tu peux donner les vérités comme elles doivent se dire. Pour l'internaute, il y a aussi un avantage, c'est vrai, parce que on peut les écouter à toute heure. On n'a pas été disponible. On peut garder l'information sur le téléphone. On peut les réécouter. Mais il faudrait être quelqu'un de très discipliné pour prendre certaines décisions personnelles, pour dire j'ai envie de changer, parce qu'on ne peut pas changer quand on ne converse pas avec les gens. D'où une autre partie des inconvénients d'utiliser les réseaux sociaux uniquement, parce que, par exemple, pour un prédicateur, prêcher sans savoir, savoir si celui qui a reçu a compris, ça peut faire mal. Je dis, est-ce que j'ai bien enseigné? Est-ce que ça a été bien compris? Parce qu'on donne des enseignements ou on prêche par rapport à d'autres réalités qui n'est pas la réalité des autres.
Mais il n'y a pas d'interaction.
Oui, voilà. C'est ça le problème d'interaction, parce que quand il y a une certaine interaction dans une petite communauté, dans une église grosse ou grande, il y a au moins une petite structure, des échanges qui peuvent se faire. On peut poser des questions. Donc, on peut étayer son enseignement. Pour l'internaute aussi, comme je disais, il n'y a pas d'interaction sociale. Il ne pose pas de questions. Donc, quelque part, on ne ressent pas la chaleur humaine. Parce qu'au fond, il ne faut pas aller à l'église pour aller à l'église, pour entrer les chaises, pour montrer aux gens qu'on est à l'église. C'est parce qu'on veut retrouver des gens.
Qu'on est bien habillé.
Non, exactement. Exactement. Surtout chez nous, les Africains, dimanche, sans dimanche, ça devient sacré. Non. Le but, c'est d'échanger, de pouvoir parler avec les gens, de pouvoir converser, d'échanger des points de vue, de poser des questions, l'agrandir. Et là, les réseaux sociaux, c'est un plus, mais ce n'est pas que ça. Ça ne peut pas être utilisé seulement pour soi. C'est un plus qu'on peut utiliser quand on va à l'école. C'est un supplément, plutôt. Quand on va à l'église, c'est un supplément.
Gardez la ligne, Nathalie. Nous avons Salomon en ligne. Salomon, bonsoir.
Bonsoir, les auditeurs de la Radio Afrique.
Je vous écoute.
Pour moi, je dis que les réseaux sociaux, nous aident aussi à prier. Je suis un chrétien catholique, nous sommes dans notre mouvement de groupe où nous sommes suggérés à se partager le Seigneur, par exemple, prier avec la maman, le mari, les frères, tout comme ça. Il y a le même mouvement de chaîne où on encadre des gens. Il y a des publications de soi qui nous aident à méditer le verset peut-être.
Je crois que nous avons perdu notre auditeur Salomon. Salomon, vous êtes toujours là?
Oui, je suis là.
Voilà. Salomon, comment vous luttez, par exemple, contre la manipulation? Parce que on peut manipuler la parole de Dieu. Et ça passe souvent sur ces médias sociaux.
Oui, la manipulation, on fait voir quelle est l'information qui est fiable et quelle est celle qui n'est pas fiable. On ne se laisse pas aller, par exemple, il y a des gens qui.
Merci Salomon. Nous avons un problème de connexion téléphonique avec Salomon. Nous revenons vers notre invité, docteur Nathalie. Je parlais tantôt de la manipulation qui passe souvent sur la toile, et c'est la plateforme est beaucoup utilisée pour manipuler, instrumentaliser. C'est un couteau à double tranchant, même si on veut vulgariser la bonne nouvelle.
Oui, c'est un couteau à double tranchant parce que soit on peut se faire emballer très rapidement, mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut cliquer, par un clic, on peut arrêter le système. C'est vrai que quand on va dans une église et qu'on tombe un peu sous le joug d'un gourou, c'est très difficile de se désolidariser parce qu'on a créé des liens humains, relationnels, et plus on les crée physiquement, c'est plus difficile de les couper. C'est vrai que avec les réseaux sociaux, lorsqu'on sent que ça ne va pas, c'est facile de se dire « je me déconnecte, j'en sais, je ne vais plus suivre ça ». Mais c'est vrai qu'il faut, il faut une certaine maturité. Mais cette maturité s'acquiert d'abord en rencontrant des gens physiquement. Ce n'est pas évident parce qu'on risque de prendre tout ce qui est sur Internet et être carrément un dépotoir de tous les enseignements. Ça va finir par créer des indigestions, je dirais, concernant les enseignements. Mais ce qui est important, c'est d'abord de, d'avoir un début avec des gens. Il faut se faire aider. Si on commence une marche personnelle, il faut aller à la rencontre des gens physiquement, leur poser des questions, ceux qu'on estime, bien sûr. Et à partir de là, on sera capable de filtrer. Sinon, si on devient chrétien du jour au lendemain, qu'on va sur Internet, c'est pratiquement impossible de pouvoir comprendre ce qui se passe. On verra tout et n'importe quoi.
Est-ce que, par exemple, au niveau de votre église, est-ce que vous avez un canal officiel connu sur l'un de ces médias sociaux où vous pouvez suivre ce qui se passe au niveau de votre église et vous assurer que ça vient de votre église?
Oui, oui. En général, la plupart des églises maintenant ont leur propre site web. Donc, ils peuvent voir soit une page Facebook qui existe. Il y a aussi une église, dans mon église dans laquelle je vais, ils ont un propre site internet où vous avez des, un message en général de bienvenue et des messages réguliers que l'on donne le dimanche. Donc c'est vrai que quand on n'est pas disponible, qu'on a été empêché pour x, y, z raison, on peut se connecter. Mais ce n'est pas suffisant, il faut sincèrement y aller physiquement, rencontrer les gens. Ça c'est bon pour les gens qui ne sont pas disponibles physiquement. Mais c'est vrai que oui, ce site existe. Il est là et on peut visiter forcément des enseignements et écouter en tout cas.
Nous avons Moïse en ligne. Moïse, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous écoute.
Oui, nous en fait avec l'internet, la technologie d'internet, avec notre guide, effectivement nous avons aussi notre site à laquelle lorsqu'il y a un message qui passe, on peut aussi passer à partir de l'internet pour que toute la communauté soit informée, même ceux-là qui ne sont pas de notre église, ils seront aussi informés de ce qui s'est passé. Moi, je disais encore autre chose, c'est-à-dire, hormis l'internet concernant l'église, les chrétiens ne doivent pas être basés uniquement sur l'internet. Parce que le suivi, c'est bien avec l'église. Mais nous devons au moins aussi rester à un certain moment hors la connexion pour être en intimité avec notre Dieu.
Merci, merci Moïse pour votre contribution. Il nous reste très peu de temps, moins d'une minute. Nathalie, on va terminer avec vous. Vous dites qu'il faut vérifier la véracité des informations publiées et relayées. Mais l'utilisation de ces médias sociaux par les acteurs dont nous avons cité risquent également de détériorer la qualité du débat de fond.
Absolument, c'est ce que je disais. C'est juste un outil. C'est comme acheter un livre. Un livre, c'est, on peut le relire. Mais le fait de partager avec des gens les expériences qu'on a faites en lisant le livre, ça change tout. Donc, le réseau social, les réseaux sociaux, c'est un plus. Absolument. Pour toucher les gens qui n'ont pas été touchés par l'évangélisation classique, les gens qui ont toujours eu de mauvaises expériences avec les églises. C'est vrai que ça peut être extrêmement utile, mais ce n'est pas suffisant. Et il ne faudrait pas que les gens se bornent qu'à ça. Parce qu'il y a des gens qui ont été blessés, qui se disent bah, « moi, je vais me nourrir que sur des enseignements, des publications sur YouTube. » C'est pas possible. C'est comme de dire « je me suis fâché avec un membre de la famille, j'ai pas envie de rencontrer les gens dans la rue. » Non, c'est pas comme ça. On peut pas grandir, en tout cas, en se fermant uniquement.
Merci. Les églises et les nouvelles technologies, c'était le sujet de ce dialogue des religions. Merci, docteur Nathalie, pour votre temps et votre contribution dans cette émission. l'émission. Eric Manirakis a été avec vous. Merci également à tous les auditeurs qui ont participé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée à tous. Au revoir.